RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Marie-Pierre Rey, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai invité parce que vous êtes historienne, normalienne, agrégée d'histoire, vous enseignez l'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre dernier livre s'intitule « Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême », c'est publié chez Flammarion. Le premier des chefs, c'est le premier des chefs cuistots, et je vous invitais parce que forcément en cette fin d'année qui a été marquée pour certains d'entre nous par quelques agapes, eh bien je voudrais avec vous plonger dans l'histoire de notre art culinaire, de nos cuisines, de nos recettes. Nous allons tenter ensemble d'expliquer pourquoi la manière de se nourrir, de partager les repas, de les mettre en scène, eh bien cette manière dit quelque chose à toutes les époques et précisément à l'époque de Antonin Carême, c'est-à-dire au début du 19e siècle, dit quelque chose de notre manière d'être et de vivre en société. Alors Antonin Carême, on va le voir dans quelques instants, est un homme exceptionnel à tous égards, fascinant, et nous allons le découvrir, lui et son époque, en votre compagnie.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui en compagnie d'un grand cuisinier, d'un grand chef cuisinier du début du 19e siècle, Antonin Carême, et dans le studio, l'historienne Marie-Pierre Rey qui va nous faire partager sa passion pour, je cite le titre de son livre, Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême, c'est chez Flammarion. Alors il faut bien dire, Marie-Pierre Rey, que la trajectoire de Antonin Carême a été absolument hors du commun. Au départ, c'était, si je vous ai bien lu, un jeune Parisien analphabète et chétif.
Absolument. C'est un petit garçon, un préadolescent en fait, que son père abandonne lorsqu'il a à peu près 10-11 ans.
C'était courant les abandons d'enfants, vous le dites dans votre livre.
Oui, rien hélas d'anormal finalement dans ses débuts. Beaucoup d'enfants, des milliers d'enfants sont abandonnés, et peut-être que dans le cas de Carême, il a été plus placé que véritablement abandonné par son père, mais qui en tout état de cause était trop pauvre pour le nourrir. Donc ce petit bonhomme se retrouve à travailler chez un aubergiste, mais il est très vif d'esprit, il est très curieux et très courageux. Et à partir de là, il observe et il commence à s'intéresser à la cuisine. Mais évidemment, dans cette petite auberge, il apprend les rudiments de la cuisine.
C'était du côté de la rue du Bac à Paris, c'est bien ça ?
Il est voilà. Il est né rue du Bac, oui. Mais son père l'abandonne près de la barrière du Maine.
C'est-à-dire pas loin de la porte d'Orléans aujourd'hui, c'est
absolument,
ça ?
Voilà. Et donc, il démarre comme ça, et puis à l'époque, bien sûr, il ne sait ni lire ni écrire. Oui. Il entre comme petit marmiton chez un boulanger. Et c'est là qu'il a une première chance, en ce sens que ce boulanger fait donner des cours, en fait, à ses enfants. Et Antonin Carême va profiter, à la marge, pourrait-on dire, à l'insu même de son employeur, des cours, des premiers cours, donc. Et c'est ainsi qu'il apprend à lire et écrire. Mais il restera longtemps, finalement, un adolescent qui a du mal à lire. Et c'est la raison aussi pour laquelle, très tôt, ce qui lui plaît, c'est dans ses rares heures de loisirs, d'aller à la bibliothèque alors nationale, impériale, royale, elle a changé de nom.
Oui, parce qu'il faut le dire, nous sommes au début du 18e, à la fin du 19e, à la charnière de l'époque révolutionnaire, c'est ça ?
Oui, il est né en 1784, et donc on est tout à fait à la fin de la période révolutionnaire, et les prémices de l'Empire se dessinent.
Donc les bibliothèques sont rouvertes.
Voilà.
Et donc...
Et il se passionne pour
il va en profiter.
Voilà. Et il se passionne pour les traités d'architecture, parce que c'est plus facile, évidemment, quand on n'est pas à l'aise avec la lecture. Et c'est là qu'il va découvrir, finalement, sa première passion, qui sera l'architecture.
Avant la cuisine.
Et il dira plus tard qu'il était architecte dans l'âme, mais pâtissier par profession, parce qu'il lui fallait bien vivre. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que Il est tout de suite attiré par le beau, le beau en pâtisserie. Et à l'âge de 17 ans, autre rencontre très importante, il entre chez Bailly, qui était à ce moment-là le plus grand pâtissier parisien, qui va tout de suite comprendre que cet adolescent a du talent. Car de fait, Carême se caractérise tout de suite par une très grande maestria de la pâte feuilletée. Alors c'est son premier, sa première réalisation, il l'allège. Il étire les fils.
Il la réinvente.
Voilà. Et il séduit par la légèreté de ses pâtisseries. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il sait très bien, il a très vite compris qu'il fallait qu'il se distingue pour pouvoir sortir du lot à tous égards. Et c'est là qu'il va commencer à réfléchir à la manière d'intégrer l'architecture en pâtisserie.
C'est fascinant, cette complémentarité entre la pâtisserie et l'architecture. Il est le premier.
Ah oui, et non seulement il est le premier, mais alors peut-être que d'autres y avaient pensé avant, mais ils ne l'avaient pas réussi. Ce qui est extraordinaire chez Carême, c'est que cette maestria visuelle s'accompagne d'une très bonne connaissance des règles de l'architecture, parce que il fallait arriver tout de même à ce que ça tienne debout, que ce soit stable. Il faut imaginer en
donc
fait.
Donc il va monter des pièces,
oui.
d'où cette expression pièce montée.
C'est ça. Il est le maître de la pièce montée, mais pas la pièce montée classique aujourd'hui, enfin au 19e siècle. Qui est finalement une sorte de pyramide assez banale de choux.
Voilà. Ce qui est assez triste, en fait.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Là, il va faire une mise en scène, une construction.
Il construit des pagodes, des temples grecs, il reconstitue des palais entiers, en fait, en pâtisserie. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Alors, c'est en quelle matière? C'est en nougat?
Alors, en nougat, des amandes, du sucre filé, des meringues. Et voilà. Donc, il a tout un. Et des palettes de couleurs aussi qui vont faire sa caractéristique. Il aime les couleurs pastels. Et tout cela, évidemment, va séduire très très vite les habitués de la boutique. Et puis, ceux qui commencent à se dire que cet adolescent peut apporter beaucoup à la beauté de la table du ministère des Relations extérieures.
Alors, on va y venir, puisque de fait, il faut bien dire que en moins de 5 ans, Antonin Carême est donc devenu le chef adulé des plus grandes cours d'Europe. On évoquera tout à l'heure Talleyrand, le couple Murat, Caroline et Joachim, Napoléon, le tsar Alexandre Ier, les Rothschild, etc. Mais donc, celui qui était avant tout un surdoué, passionné par l'architecture et par la pâtisserie, va sortir de son premier cercle, en quelque sorte, c'est ça?
Alors, il a eu finalement quand même beaucoup de chance. Alors, tout temps, il nous faut souligner que c'est un adolescent boulimique de travail. Il travaille énormément et il a soif justement de s'ouvrir à tout, peut-être par déjà un esprit de revanche sociale. Ça, c'est quelque chose qui est très, très présent chez lui. Donc, en 1803, il est repéré par l'intendant de Talleyrand, qui admire ses pièces montées et qui va commencer à l'engager pour ce qu'on appelle à l'époque les grands extraordinaires. C'est-à-dire que Carême ne sera pas salarié sauf cas exceptionnel quand il est chez les Rothschild, mais il n'est jamais salarié ni cuisinier à temps plein pour un seul employeur.
C'est un prestataire de service.
Absolument, c'est on dirait aujourd'hui un auto-entrepreneur en réalité. Voilà.
Ou un extra dans le monde de la restauration, les traiteurs, on appelle ça un extra.
C'est ça. Voilà. Alors il fait ses grands extraordinaires, donc au départ en pâtisserie, qui requièrent non seulement du savoir-faire, mais des heures et des heures de travail. Il peut travailler 48, 72 heures d'affilée. Ah oui, c'est impressionnant.
Sans dormir.
Pour réaliser ces objets extraordinairement beaux, ces pâtisseries qui sont donc aussi bonnes au plan gustatif que belles. Parce que pour lui, esthétique et goût marchent de pair. Et puis, quand il va commencer, il va servir Talleyrand par ses extraordinaires pendant plus d'une dizaine d'années. C'est quand même un lien de fidélité.
Il va y avoir une complicité entre ces deux hommes.
Il y a une complicité, il y a une connivence, et puis il y a aussi une convergence d'intérêts à un moment clé d'histoire de France qui est 1814, lorsque...
Alors,
les Alliés.
On va y venir, parce que c'est le moment charnière. Ça se passe rue Saint-Florentin, au coin de la rue de Rivoli et de la place de la Concorde. Mais avant cela, je voudrais, si vous le voulez bien, Marie-Pierre Rey, que nous puissions remettre en situation cet art culinaire et cette gastronomie dans laquelle fait irruption ce jeune surdoué Antonin Carême. Cette mise en scène de la cuisine, notamment, on va le voir chez Talleyrand, se place dans la lignée de l'héritage monarchique de Louis XIV, où la cuisine, où le repas du prince était en lui-même une pièce de théâtre, était en lui-même un spectacle qui manifestait la puissance du prince. Vous écrivez, Marie-Pierre Rey, dans votre livre, qu'il a fallu attendre Louis XV pour que le roi bénéficie d'une salle à manger privée.
Absolument. Jusque-là, le roi mange, quel que soit le repas, en public. C'est un acte politique.
C'est ça.
Et c'est l'occasion pour lui d'avoir ses courtisans autour de lui, sa famille, mais le roi mange seul.
Et face au peuple, donc.
Face au peuple et aux courtisans. Qui sont autour de lui. Et donc, c'est vraiment... il mange, d'ailleurs, il mange, pour ce qui est de Louis XIV, plutôt beaucoup.
Oui. Et
on a donc devant lui une table absolument extraordinaire où des mets les plus raffinés sont exposés. Et donc, on a, de fait, une théâtralisation avec aussi tout un ensemble de signes qui sont voilà, la caractéristique du pouvoir.
Par exemple
Par exemple, tout ce qui est surtout d'orfèvrerie, la nef, ce qu'on appelle la nef.
Qui est au centre de la table,
voilà,
c'est
qui
ça
est au centre de la table. Les objets aussi qui sont sous cadenas, puisqu'on a toujours à l'époque quand même peur d'un empoisonnement.
Et oui.
Donc voilà, c'est aussi...
Une véritable tension.
Voilà, une manifestation de pouvoir, mais aussi quand même, il y a cette idée que tout peut arriver à table, précisément. tout est gardé sous cadenas.
Oui.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Régime, on a cette théâtralité, ce décorum, cette harmonie aussi déjà entre les mets que l'on place et puis la belle vaisselle, les couverts d'orfèvrerie, etc., la cristallerie. Tout cela est à l'unisson. Mais progressivement, et de ce point de vue-là, le règne de Louis XV apporte, comme vous l'avez mentionné, un tournant. Louis XV, qui sera le premier monarque à avoir sa salle à manger privée, est aussi celui qui va commencer à apprécier ce qu'on appelle les petits soupers, c'est-à-dire les soupers où on n'est pas, où le monarque n'est pas du tout le seul à manger, mais où il partage. Et on est déjà...
C'est une révolution,
oui,
si j'ose dire.
Oui, on peut le dire.
En quelque sorte.
Voilà, bon, il n'est pas jusqu'à assez partagé. Pour éviter qu'on coupe la tête de Louis XVI, mais c'est déjà l'idée que la nourriture se partage et qu'elle est aussi l'occasion d'échanges, et c'est là qu'on va avoir évidemment tout le goût de la conversation à la française.
Et oui, on se parle à table.
On se parle et on rivalise de mots d'esprit. Il s'agit de montrer aussi son intelligence et de plaire aussi au souverain par la conversation.
Voilà, l'art culinaire, l'art de la conversation, la beauté des plats, la beauté du décor, c'est un tout.
Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît avec Louis XV et qui sera poursuivi. Et évidemment, on va retrouver cette symbiose, c'est-à-dire ce goût du beau, ce goût de la grande cuisine, ce goût des mots d'esprit dans une personnalité qui est déterminante pour le parcours de Carême, c'est Talleyrand, évidemment.
Alors, on va y venir, mais je sens que vous brûlez, et vous avez raison de nous parler de Talleyrand, parce que c'est absolument extraordinaire. Mais avant cela, juste un point peut-être pour nos auditeurs sur la nature de la nourriture qui était servie en cette fin du XVIIIe siècle. Vous écrivez, Marie-Pierre Rey, qu'on est sorti de la cuisine médiévale qui était surchargée en épices, peut-être pour masquer les difficultés de conservation, mais on a une cuisine plus subtile, plus fine, qui fait son apparition dans cette fin du XVIIIe siècle.
Alors, la cuisine que vous mentionnez, effectivement, elle est surchargée d'épices. C'est un trait qui caractérise la cuisine de toute la Renaissance. Mais pour plusieurs raisons. C'est vrai que ça pouvait être pour masquer des produits qui n'est pas toujours très très frais, mais aussi parce qu'on aimait les couleurs et que l'épice, l'épice servait à colorer. Et c'est ce qui expliquera parfois des associations un peu malencontreuses en termes de
goût.
Par
exemple.
Oh bah c'est une question après de mais on use beaucoup de poivre, de girofle, de colorants, de piment
safran.
Aussi, de safran, de piment, et qui parfois évidemment
qui peuvent masquer les goûts originels,
le vrai
en
goût.
Tout cas.
Et c'est contre cela que s'érigera d'ailleurs Carême. Alors il n'est pas tout seul, mais il s'inscrira dans cette mouvance qui est de dire mais si on met trop d'épices, on n'a plus le goût du
goût d'origine.
Voilà.
Alors revenons au cours de l'histoire. J'imagine que pendant la Révolution, tout ça s'est arrêté.
Alors, pendant la Révolution, on a des grands banquets, mais qui sont des banquets où on boit plutôt, où on parle, mais où on s'intéresse pas vraiment à ce qu'on mange.
Voilà.
Donc, c'est vraiment les banquets révolutionnaires. Voilà. Mm-hmm. Mais c'est un tout autre esprit et où on perd de l'intérêt pour la cuisine, en tout cas pour ce qu'on a dans son assiette. Et c'est après que, progressivement, un retour en grâce, pourrait-on dire, de l'art culinaire revient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura évidemment une passation, pourrait-on dire, de génération. Quand Carême rencontre, puisqu'au départ il est pâtissier, progressivement il se fait cuisinier, lorsque dans les grands extraordinaires qu'il sert, il rencontre des cuisiniers qui sont chargés du chaud, puisque lui est chargé du froid, c'est-à-dire globalement de la pâtisserie, mais pas toujours, mais en tout cas il est au contact de cuisiniers, et c'est là qu'il va découvrir la cuisine. Et ces cuisiniers ont pour caractéristique d'avoir été formés dans l'ancien régime.
Sous l'ancien régime,
et ils ont la mémoire, le savoir-faire, la technique de cette cuisine.
Alors justement, je voudrais vous faire écouter, vous proposer un petit détour, si vous voulez bien, Marie-Pierre Rey, un petit détour par le cinéma. Et il y a un film qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, l'année dernière, et qui s'intitulait Délicieux, un film réalisé par Éric Bénard, et qui nous montre comment, à l'aube de la Révolution française, un cuisinier audacieux mais orgueilleux, qui n'est pas votre Antonin Carême, mais après tout, c'est une figure, il s'appelle Pierre Manceron, il est joué par Grégory Cadbois, et bien, il est limogé par son maître, le duc de Chamfort, et donc il rencontre une femme, et puis il souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, ça lui redonne confiance en lui, et puis ils vont créer ce qu'on pense être le premier restaurant. Je voudrais vous faire écouter cette bande-annonce, parce que ça dit quelque chose de l'ambiance de cette époque, de fin de l'Ancien Régime, en lien avec l'art culinaire.
Du beurre, voyons, du beurre! Faut faire bien, faire grand, faire savoureux.
Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manceron, vos cuissons étaient parfaites.
Comment appelez-vous ces petits chaussons?
Le délicieux.
Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
Il nous prend pour des gorées.
Excusez-vous.
Manceron!
C'est vrai qu'il était cuisinier?
Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre.
Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti.
Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner.
Apprenez-moi, et je suis sûre qu'il reviendra.
C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne.
Il faut partager cet endroit avec tout le monde.
Noble, bourgeois ou paysan.
Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche.
D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. Je parle de votre auberge jusqu'au château.
Ici, tous les clients sont ducs et tous les clients sont rois.
Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit.
L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes?
Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer.
Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels.
J'exige que vous fermiez votre gargote.
Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre.
Voilà, nous étions à l'aube de la Révolution française par la magie du cinéma. C'était la bande-annonce du film Délicieux, réalisé par Éric Bénard cette année 2021. Vous avez reconnu les voix de Guillaume de Tonquédec, Benjamin Laverne, Grégory Cadbois et Isabelle Carré.
Les racines du présent, RCF.
Les racines du présent, aujourd'hui, toujours au micro Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie de l'historienne Marie-Pierre Rey, qui vient de publier chez Flammarion un livre à la fois beau et passionnant et goûteux, si j'ose dire, intitulé « Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême ». Alors nous avons vu avec vous, Marie-Pierre Rey, comment ce jeune Antonin Carême est sorti du ruisseau en quelque sorte. Il était analphabète, chétif, abandonné par son père, et il est devenu un pâtissier en vogue dans cette période charnière de la Révolution française. Nous en arrivons au consulat et à l'Empire. Alors, vous écrivez que Napoléon n'était pas gastronome, mais qu'il a rétabli le fameux grand couvert les jours de fête. Donc, il a rétabli en quelque sorte cette caractéristique de l'ancien régime. Alors, comment est-ce que le jeune Antonin Carême s'est immiscé dans les couloirs du pouvoir, et en particulier du pouvoir gastronomique?
Eh bien, par l'intermédiaire de Talleyrand, donc, qui va le repérer lorsqu'il est chez Bailly, et qui va lui commander ces fameux grands extraordinaires. Alors, Carême va le servir de 1803 à 1814, et c'est là donc qu'au contact d'autres cuisiniers, il va perfectionner son art et devenir de plus en plus célèbre. Et le grand moment de sa carrière, c'est 1814.
Alors, que s'est-il passé en 1814?
Eh bien, c'est vraiment un tournant. Pourquoi? Parce que 1814, au printemps 14, la France est occupée. Napoléon est sur le point d'abdiquer à Fontainebleau.
Et d'être relégué à l'île d'Elbe.
Absolument. Et les Bourbons ne sont pas encore revenus, mais les alliés, en particulier à la tête de ces alliés, le souverain russe Alexandre Ier, sont à Paris et vont évidemment vouloir imprimer leur marque.
Alors, il faut préciser que vous avez consacré plusieurs livres à Alexandre Ier.
Oui, voilà.
Vous êtes une véritable spécialiste par ailleurs.
Oui, j'ai consacré une biographie à Alexandre Ier et deux autres livres, dont un sur la campagne de Russie et un autre sur justement le séjour des Russes à Paris en 1814. Et donc, il y a là un véritable enjeu qui est d'essayer pour les Français et pour Talleyrand, qui est à la tête encore de la diplomatie française, d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver, sauver les meubles, pourrait-on dire un peu vulgairement.
Oui, parce que nous sommes entre deux pouvoirs. Il n'y a plus d'empire, il n'y a pas encore de monarchie rétablie, de restauration, mais Talleyrand est là.
Oui, et il faut faire la paix. Et il faut faire la paix aux conditions les moins désastreuses, catastrophiques qui puissent être. Et Talleyrand donc va inviter le tsar à loger chez lui, rue Saint-Florentin. Et il va évidemment tout faire pour le convaincre, le séduire, pourrait-on dire, et pour cela user aussi, non pas seulement de ses talents de grands diplomates qui sont évidents, mais aussi de cette arme culinaire. Car
c'est vraiment le mot que vous utilisez, arme culinaire.
Oui, parce que le tsar est un esthète et c'est un gourmand, un gourmet, et donc Talleyrand va user de cette arme. Alors, il faut mentionner, puisque vous y faisiez allusion, que Napoléon, en effet, ne s'intéressait pas particulièrement à la cuisine, mais Napoléon a très vite compris qu'on pouvait tirer un avantage de cette cuisine, et ce, de deux points de vue. Napoléon a d'abord, financé, pourrait-on dire, organisé, orchestré, ce que j'appelle les grands messes culinaires dans mon livre, qui pouvaient réunir jusqu'à 10 000 personnes. Il faut savoir ce que ça veut dire. 10 000 soldats à qui on a donné un banquet aux Champs-Élysées. Et on a ce genre de communion entre le souverain et son peuple aux grandes phases de l'Empire, que ce soit les mariages de son frère Jérôme, par exemple, ou la célébration.
Ou son propre mariage avec Marie-Louise.
Des grandes victoires. Ouais. Voilà. Et puis on a à côté de cela une cuisine plus raffinée, qui se sert en comités plus réduits, qui peuvent aller de 20 à 50 couverts, où là, il s'agit de séduire, de créer des liens de vassalité, et c'est exactement...
De faire du lobbying, on dit en français aujourd'hui,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est ça, un petit
en
peu.
En quelque sorte,
voilà.
Oui.
De créer aussi des liens particuliers. Et c'est ce modèle que va reprendre Talleyrand lorsqu'il est ministre des Relations extérieures, sur la demande de Napoléon, qui lui dit dépensez autant que vous voudrez, je couvrirai vos dettes. Donc c'est vraiment...
Quoi qu'il en coûte.
Quoi qu'il en coûte, oui, c'est ça. Oui. Au service de la diplomatie de la cuisine. Et Talleyrand va reprendre en fait ce modèle lorsque le tsar est à Paris au printemps 1814. Et ça va bien fonctionner en réalité, puisque le premier traité de Paris sera moins dur à notre égard qu'il aurait pu l'être. Alors, ça c'est pour l'aspect grande histoire, mais Carême, évidemment, va bénéficier de ce moment, parce que sa cuisine est tellement extraordinaire qu'elle va séduire non seulement le souverain russe, mais aussi tous les princes d'Europe qui sont à ce moment-là à Paris. Et pour lui, c'est un tremplin extraordinaire, évidemment, que va représenter cette rue Saint-Florentin.
Alors, on peut citer l'une des nombreuses histoires que vous évoquez dans votre livre. C'est l'histoire des deux saumons qui montre bien cette idée de magnificence, de quoi qu'il en coûte.
Alors, en réalité, ce que je montre, c'est qu'elle est fausse, elle est mm-hmm. postérieure à... Et je raconte l'histoire, justement, de ce mythe. Mais le mythe est magnifique pour ce qu'il dit, parce que c'est une histoire qu'on voit reproduire et qui est très, très symptomatique de cette théâtralisation.
Alors, racontez-nous.
Alors, voilà, il s'agit de notre Talleyrand qui veut séduire les princes de la Confédération du Rhin, donc, et qui demande à son cuisinier de préparer, de concocter un énorme saumon. Alors, Talleyrand est très prévoyant, le cuisinier aussi, donc il commande un premier saumon de Moselle, absolument extraordinaire, mais pour être plus tranquille, parce qu'on ne sait jamais avec les fournisseurs, ils en commandent un autre du Rhin, encore plus magnifique. Et le jour J, finalement, arrivent les deux saumons, qui sont évidemment du coup énormes. Et Talleyrand, évidemment, veut en avoir pour son argent, si je puis dire, et veut que son cuisinier concocte les deux saumons. Lequel cuisinier répond, mais non, ce n'est pas possible, ce serait une faute de goût que d'avoir autant de saumons. Et la discussion un peu s'engage de manière un peu vive, mais dans un grand respect mutuel. Et parce que Talleyrand a beaucoup de considération pour son cuisinier. Et bon, le cuisinier s'entêtant, Talleyrand ne voulant pas céder, une solution germe du cerveau, évidemment, surdoué de Talleyrand.
Voilà.
Et le soir arrive, un énorme saumon magnifiquement apprêté arrive devant l'assistance des couverts médusés. Les convives savourent déjà le magnifique saumon et le valet maladroit, patatras, renverse le saumon par terre sur le parquet, suscitant l'effroi de l'assistance. Et à ce moment-là, évidemment, Talleyrand, je dirais impérial, se tourne vers son maître d'hôtel et lui dit qu'on en apporte un second. Et le second saumon, encore plus gros que le précédent,
déjà apprêté,
fait son apparition. Voilà.
Et puis alors, il y a aussi autour de cette table de Talleyrand, et on peut penser que autour de la table du tsar, c'était la même chose. Vous nous expliquez, Marie-Pierre Rey, que Talleyrand ne dédaigne pas de découper lui-même les grosses pièces de viande qui constituent le cœur du repas, mais que là aussi, la hiérarchie politique et sociale apparaît de rigueur. Et je vous cite, le maître de maison s'adresse tour à tour à chacun de ses invités, mais en fonction de leur rang.
Oui.
Et on ne sait plus bien si on est sous l'Ancien Régime ou si on est après la Révolution. Alors je vous cite, premier invité, Monseigneur, me ferez-vous l'insigne honneur d'accepter ce morceau de bœuf ? Puis on descend d'un cran. Monsieur le Duc, aurais-je la grande joie de vous offrir ce morceau de bœuf ? On descend encore d'un cran. Monsieur le Marquis, voulez-vous me faire le plaisir d'accepter ce morceau ? Mon cher Comte, voulez-vous bien me permettre ? Baron, vous enverrai-je du bœuf ? Chevalier, vous plaît-il ? Et là-bas, mon rond, et Durand, bœuf ?
Voilà.
C'est comme ça que ça se passait ?
Oui, tout est très codifié à table, en fait. Hein. Tout révèle à la fois révèle les hiérarchies politiques et sociales, la place où l'on se trouve par rapport à la personne qui invite. Tout cela est extrêmement codifié. Et on arrive à ce genre de formule. C'est vrai, c'est quelque chose qui progressivement va s'effacer.
Oui.
Mais qui existe, oui, à ce moment-là.
L'Ancien Régime s'est en quelque sorte prolongé.
Oui.
Alors, il y a aussi autre chose qui est importante, c'est les conditions de travail des cuisiniers et des pâtissiers également. On l'a évidemment oublié, mais les cuisines se trouvent loin des salles à manger. Pour quelle raison, Marie-Pierre Rey ?
Pour éviter les odeurs, parce qu'on craint, voilà, les odeurs.
Et puis les incendies aussi.
Et les incendies.
Les fours fonctionnent au charbon de bois, les poêles aussi. Du coup, tout cela dégage des vapeurs qui sont extrêmement dangereuses. Vous citez cette phrase, je crois, de Carême. Un cuisinier voit plus souvent la mort en face qu'un soldat.
Oui, parce qu'en fait, ces fours produisaient des vapeurs toxiques, hein, très très nuisibles à l'organisme. Les cuisines étaient souvent dans des sous-sols mal ventilés.
Mmh.
très peu aéré. Et puis parce qu'on avait du mal à garder la chaleur du four, on aérait encore moins. Ce qui fait qu'en été, par exemple, on pouvait avoir des températures absolument suffocantes. Et le cuisinier est exposé à de très mauvaises conditions de
Et puis les fours, écrivez-vous, étaient très difficiles à régler. Et en pâtisserie, c'est très important. Il suffit d'une ou deux minutes. Oui. Et donc, ça supposait un savoir-faire absolument exceptionnel.
Ça, c'est ce que mentionne Carême. Il met beaucoup l'accent sur ses fours. Il dit qu'il a travaillé dans des... Puisqu'il faisait ses grands extraordinaires, il devait aussi s'adapter au matériel qui lui était proposé. Et donc, il y avait une grande variété dans les fours. Et il dit que voilà, c'était extrêmement difficile. Parfois, on mettait plusieurs jours pour chauffer un four à la température convenable. Et tout pouvait très vite tourner à la catastrophe. Donc, il fallait être une vigilance permanente. Et puis, bon, évidemment, une expérience qui, acquise au fil des années, fait qu'il sera de plus en plus sûr de lui. Mais il mentionne... à quel point c'est un art difficile. Ce qui est très intéressant chez Carême, c'est que il a eu non seulement il a été un praticien au service des grands, mais il a écrit et publié des ouvrages dans lesquels il dit beaucoup de choses. À la fois, on pourra peut-être y revenir sur les préceptes culinaires qui sont les siens et qui sont extrêmement novateurs pour la période. Mais il a eu aussi très tôt le désir de finalement d'améliorer la condition du cuisinier et d'attester des difficultés du métier pour justement en obtenir une plus grande considération de la part du public.
Alors justement, vous nous expliquez que dans ces lieux où Carême a exercé, vous citez le château de Valençay, qui est le château que Napoléon avait en fait acheté sur les sous de l'État pour Talleyrand, un château qui se situe dans le Cher et qui se visite aujourd'hui. On peut y visiter les cuisines qui sont immenses, spacieuses, très aérées. C'était très innovateur pour l'époque.
Ah oui, Valençay, c'est vraiment l'exemple même des cuisines fonctionnelles, extraordinairement modernes. On a également dans cette catégorie les cuisines du château de l'Élysée, du palais de l'Élysée.
Mais oui.
Revue par Murat, parce que Murat va dépenser...
Car Murat et sa femme Caroline ont habité à l'Élysée.
Voilà, et ils étaient tous les deux très très amateurs de cuisine et ils vont consacrer beaucoup d'argent à l'embellissement des cuisines. Et mentionnons au passage d'ailleurs que Caroline Murat se préoccupera de, là aussi un peu dans le retour à l'Ancien Régime, de réhabiliter la cuisine en maigre qui avait totalement disparu sous la Révolution et qu'elle réhabilite avec justement le soutien de ces anciens cuisiniers qui avaient gardé la tradition de ces grands repas en maigre.
Puisque vous citez Marie-Pierre Rey, le couple Murat à l'Élysée, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter un extrait du film, ce fameux film, vous savez, Les Saveurs du Palais, qui est sorti en 2012 et qui nous raconte comment François Mitterrand, à l'époque président de la République, était allé chercher pour les cuisines de l'Élysée, précisément, une cuisinière périgourdine qui est incarnée dans ce film par Catherine Fraud, tandis que on va reconnaître la voix de Jean d'Ormesson qui incarne François Mitterrand. C'est un film de Christian Vincent intitulé « Les saveurs du palais ». On écoute.
C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière ?
Ça, je peux pas vous dire.
Je ne vais pas aller par quatre chemins. Le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs.
Je suis pas sûr d'être à la hauteur, vous voyez.
Le président pense le contraire.
Les gens que vous croisez, vous les saluez, tous.
Je présente Monsieur Luchet.
Madame.
Monsieur.
Je vais vous présenter Monsieur Lepic, notre chef de cuisine.
Non.
Écoutez, on voit les présentations plus complètes une autre fois. Vous avez le sens de l'orientation ?
Pourquoi ? Il faut une boussole ? Excusez-moi, j'ai dû me tromper.
Vous êtes ?
Je suis votre cuisinière, monsieur le président.
Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute.
Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuil.
J'ai besoin de retrouver le goût des choses.
Un filet de bœuf en croûte de sel.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter ?
Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez ? Tarte pâtissière aux fruits rouges.
C'est moi le dessert. Vous, c'est entrée, plat, fromage.
Château Rayas, 1969. Vous savez s'il a fini son chou ?
Il l'a mangé avec plaisir.
Parfait.
Un bon point pour lui.
On peut garder ce président à l'Élysée.
Deux petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne.
On vous fait des misères ces temps-ci. À moi aussi.
Tout ce travail a un coût.
Mais c'est beaucoup trop.
Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus.
Le je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique.
Voilà, c'était la bande-annonce du film Les Saveurs du palais de l'Élysée, où habitait le couple Murat, que vous venez d'évoquer, Marie-Pierre Rey.
Oui.
Donc je rappelle le titre de votre livre, Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême chez Flammarion. Antonin Carême, donc, qui a exercé ses capacités et ses dons dans cette cuisine de l'Élysée, mais aussi rue Saint-Florentin chez Talleyrand, et aussi à Valençay. Alors, vous évoquiez rapidement tout à l'heure, Marie-Pierre Rey, les préceptes culinaires novateurs que propose Antonin Carême, expliquez-nous.
Alors, donc, comme je le mentionnais, Carême a publié des ouvrages qui connaissaient à l'époque des tirages extrêmement importants. 4000, 5000 exemplaires.
C'était le top chef de l'époque.
Oui, oui,
en
voilà.
En quelque sorte.
Et top chef. Et en plus, ouais. Un top chef très vite traduit, puisque imaginez tout de même que ces ouvrages qui sont publiés entre 1815 et 1833 sont traduits en anglais 2 ans seulement après leur sortie en français, ce qui est quand même assez extraordinaire et fait pâlir d'envie un certain nombre aujourd'hui d'historiens ou de romanciers. Donc c'était vraiment une performance. Et d'autres langues aussi, le russe par exemple. Donc tout cela est assez intéressant à souligner parce que ça montre l'audience large de Carême et du coup l'audience corrompt ses préceptes.
Alors,
et c'est là-dessus que je voulais...
Et quels sont-ils, ces préceptes ?
Alors, il y a plusieurs choses. Mais d'abord, l'idée que la gastronomie, ce n'est pas la gloutonnerie. Donc, par rapport... Et ça, c'est une nuance intéressante par rapport à ses prédécesseurs. Parce qu'il reproche à l'Ancien Régime de faire de la bonne cuisine, mais de manger trop. De s'empiffrer, pour tout dire.
Oui, mais alors, en même temps, je ne comprends pas Marie Pierret, parce que si je lis les menus,
oui.
Ce sont des menus qui sont absolument considérables. Donc, quelle est la position de Carême là-dessus ? Il voulait qu'on mange moins ?
Alors, il voulait qu'on mange moins. Par ailleurs, j'ai étudié de façon très précise le nombre de plats par rapport à ses prédécesseurs et même par rapport à ses contemporains. Il sert moins de plats que ses prédécesseurs ou contemporains, mais toujours évidemment dans ce fameux service à la française qui fait qu'on occupe, pourrait-on dire, l'espace de la table, mais qu'on ne goûte pas forcément de tout. Donc, il faut aussi bien à chaque fois...
Merci de nous rassurer.
Voilà.
On n'est pas obligé de manger de tout.
Non, on n'est pas obligé de tout manger. Non, non. Mm-hmm. Mais en tout cas, il est clair que même dans cette logique qui consiste à dire qu'on ne mange pas de tout, il n'empêche que Carême réduit le nombre de plats et que, par ailleurs, donc, il insiste sur la nécessité de ne pas être glouton. Hein. Il dit la gastronomie, c'est l'anti-gloutonnerie. J'aime beaucoup cette formule.
Le mot diététique n'existait pas encore,
alors,
mais
voilà,
on n'en est pas loin.
Il a le concept... Il n'a pas le mot, évidemment, mais il a le concept. Il a cette très, très bonne formule. Une bonne alimentation peut vous faire gagner jusqu'à 10 ans de vie. Donc, c'est quand même absolument...
Parce qu'on mourrait vite. On mourrait jeune, on pouvait mourir de la goutte, on pouvait mourir d'un très mauvais régime alimentaire.
Absolument. Et par ailleurs, à propos de la goutte, l'un de ses plus grands employeurs à l'étranger, ce sera le prince régent, futur Georges IV à Londres, qui avait d'ailleurs lui aussi des cuisines absolument extraordinaires, peut-être les plus modernes d'Europe, et qui était lui un gourmet, mais qui mangeait vraiment, vraiment trop. Il pesait 120 kilos, il n'arrivait même plus à monter à cheval. Il avait des crises de goutte. Et quand Carême va entrer à son service, sa santé va s'améliorer. Donc preuve que déjà quand même, par cette cuisine raffinée mais moins lourde, on pouvait aller mieux. Alors parmi les préceptes, justement, il y a l'idée qu'on ne doit pas user des épices. Il faut préférer les herbes aromatiques. Il ne faut pas noyer les plats dans des sauces. Il faut également des cuissons courtes. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Hein. Ça date de 1833. Des cuissons courtes, en particulier pour les légumes primeurs, les légumes printaniers qu'il faut garder, dont il faut
al
garder...
Al dente ?
Oui,
en
croquant.
Quelque sorte,
il
oui,
faut
croquant.
Conserver le croquant, dit-il. La texture. Donc, des choses quand même assez...
Contemporaines.
Assez contemporaines. Oui. Assez contemporaines. Et puis... l'idée aussi qu'il faut des produits de saison. Alors là, on pourrait objecter en disant oui, mais en 1833, c'est quelque chose qui est logique.
Oui, parce que peut-être pouvez-vous nous rappeler comment conservait-on
Alors,
la nourriture,
on conserve essentiellement longtemps, évidemment, dans le sel.
Oui.
Mais ce qui est important, justement, par rapport à cette et dans la graisse, hein, dans la graisse et dans le sel.
D'où les confits.
Voilà, d'où les confits. Mmh. Mais on va pouvoir, au début du 19e siècle, grâce à l'invention d'Appert, commencer à conserver, grâce justement à ces fameuses boîtes de conserve qui sont...
C'est là que ça a commencé.
Absolument. Et au départ, on conserve des fruits et quelques légumes, des petits pois qui ont été mis en conserve très très tôt.
Déjà.
Absolument. Et ce qui est intéressant chez Carême, c'est que quand il part en Russie, il remercie le sieur, le sieur Appert de ce qu'il nous a apporté, puisque ça lui permet ainsi d'avoir des fruits de France, dit-il, qui sont présents en Russie grâce à la conserve et dont il va faire par exemple des tartelettes de fruits, des gelées de fruits. Mais quand il est en France, il ne s'en sert pas. C'est-à-dire qu'il préfère vraiment les produits frais, légumes ou fruits, considérant que c'est à ce moment-là qu'ils sont à leur meilleur et que c'est pour cela qu'il faut les cuisiner à ce moment-là. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis des produits locaux. C'est quelque chose qu'il tient aussi de Talleyrand qui se faisait livrer les produits, les meilleurs produits du terroir et Carême va garder cette idée.
Peut-être pouvez-vous nous rappeler, Marie Pierret, en quoi précisément a consisté la révolution Appert. C'est une technique de cuisson sous vide et de conservation, c'est ça ?
C'est en fait le premier mode de stérilisation des légumes et des fruits. Et Appert va inventer ce procédé et il va d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vraiment un inventeur mais en même temps un entrepreneur à ses débuts, puisque en banlieue parisienne, il va commencer à avoir un potager et un verger pour
mettre en conserve.
Pour mettre en conserve et démontrer que son système est viable. Et le système va vite se répandre en Europe.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on ne possédait pas de réfrigérateur, que les grandes maisons possédaient des glacières. On peut en voir encore aujourd'hui dans les alentours des grands châteaux, des glacières sous terre où on conservait de la glace et où on conservait les aliments.
La limite en fait des glacières ou de la conservation par le sel, etc., c'était que c'était difficile à transporter.
Voilà.
Le génie d'Appert, ça va être non seulement de stériliser des fruits et des légumes, mais de les mettre dans des contenants qu'on va pouvoir transporter. Et ça, évidemment, c'est la révolution culinaire.
Notamment pour les marins, par exemple.
Absolument.
Ça a permis, en quelque sorte, de les préserver du scorbut. Alors, revenons à votre héros, cet exceptionnel destin de Antonin Carême. Concernant ses préceptes culinaires, il y a la question des potages. C'est assez clivant, la question du potage, encore aujourd'hui. Et vous écrivez, Marie Pierret, qu'aux yeux de Antonin Carême, le potage est, je cite, « l'agent provocateur d'un bon repas ».
Oui.
Que voulait-il dire ?
C'est l'expression qu'il emploie. Pour lui, on ne peut pas faire un bon dîner sans potage. Alors, il ne parle pas de soupe, hein, il parle, entendons-nous, toujours de potage.
Alors, quelle est la
potage.
Différence ? Expliquez-nous, parce que pour lui, on se noie, si j'ose dire.
Pour lui, la soupe, c'est quelque chose qui est assez péjoratif. C'est de l'eau dans laquelle on a fait bouillir de malheureuses racines.
Ouais. C'était la nourriture commune, il faut le rappeler.
Oui, et dans laquelle on met, quand on en a, une tranche de pain rassis qu'on fait ramollir. Donc ça, c'est quelque chose dont il sait évidemment qu'elle est répandue, mais pour lui, ça n'est pas de la cuisine. C'est quelque chose qui est... c'est le pis-aller quand on n'a rien d'autre.
Le potage.
En revanche, le potage est pour lui quelque chose de très très important qui atteste... Et ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve Carême. C'est un autre aspect de sa personnalité que j'aime bien. C'est qu'il a été aussi un grand patriote culinaire, mais aussi un homme ouvert sur la cuisine de l'étranger, en particulier quand il sillonne l'Angleterre, l'Italie, etc. Il rapporte des recettes de potage. Et pour lui, le potage, c'est vraiment quelque chose que les hommes partagent, que toutes les civilisations partagent. Et c'est un trait qui n'est pas anodin, je trouve, parce que ça renvoie aussi chez lui à la conviction que la cuisine est là pour être partagée.
Et cette cuisine-là,
c'est un acte social.
J'apporte quand même une précision, Marie-Pierre. Dans votre livre, dont je rappelle le titre, Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême chez Flammarion, vous donnez 100 recettes de Carême à la fin du livre. J'ai sous les yeux le tronçon de thon à la provençale, la grosse truite saumonée à la moderne, le turbo à l'anglaise, mais aussi des sauces, une sauce tomate toute simple, voilà. Des madeleines au cédra, crème plombière aux fraises, toutes recettes qu'on peut encore faire aujourd'hui ?
Absolument, je les ai sélectionnées pour qu'elles soient faisables précisément, mm-hmm. et j'ai indiqué donc des recettes de potage, des potages de poissons, des potages aussi de légumes et des veloutés, puisqu'en fait, Carême travaille le potage qui serait l'équivalent un peu de nos soupes actuelles et puis le velouté qui est l'équivalent en fait de ce que nous appellerions aujourd'hui le velouté. Mais il a une très très grande diversité de potages, hein, plus de 300 inventions de soupes, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Et puis des soupes aussi en maigre et en gras, donc en maigre, c'est-à-dire pour les jours de Carême.
Oui, parce qu'il s'appelait Carême, quand il faut oublier.
Oui.
C'est quand même paradoxal pour un grand chef oui. de s'appeler Carême.
Sans doute parce que...
Était-il brocardé à l'époque ?
Je pense que c'est... Non. Non, vous savez, c'est souvent des noms qu'on donnait aux enfants de
qui ont... Aux enfants trouvés.
Voilà, donc oui. C'est aussi une façon de signer son origine très très modeste.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aux racines du présent, cette semaine, nous sommes en compagnie de l'historienne Marie-Pierre Rey, qui publie un livre à la fois beau, goûteux et intéressant, intitulé « Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême ». C'est aux éditions Flammarion, c'est accompagné de 100 recettes de Carême, et c'est aussi accompagné de très très belles aquarelles, ces fameuses pièces montées, mais le mot est faible pour évoquer ces créations artistiques de pâtisserie. J'ai sous les yeux le donjon médiéval, le gâteau sur socle, la terrine de grand tétras, le croque en bouche d'agrumes. Ce sont des pièces qui pouvaient faire jusqu'à un mètre de haut, voire plus.
Oui.
Ce sont des pièces qui sont destinées à frapper, à laisser une trace. C'est ça qui frappe en vous écoutant et en vous lisant, Marie-Pierre Rey, c'est que nous discutons de choses triviales entre nous sur la conservation des aliments, sur la nature d'un bon potage, etc. Mais en même temps, il s'agit de grande diplomatie, c'est-à-dire que l'art culinaire a véritablement servi d'escorte, écrivez-vous, à la diplomatie européenne.
Oui, et ça c'est une jolie formule de Carême. C'est lui qui dit aujourd'hui la gastronomie sert d'escorte à la diplomatie. J'aime beaucoup cette formule parce que de fait, c'est une réalité. Il sera sollicité par les plus grands pour les accompagner, les servir lors des grands congrès. Il est au congrès d'Aix-la-Chapelle où il sert le souverain russe. Il sera par la suite à Vienne pour servir l'ambassadeur britannique. Il est associé à chaque fois à des hommes de pouvoir qui utilisent cet art culinaire comme arme diplomatique. Mais d'autres vont suivre, et en particulier James de Rothschild. Ça, c'est vraiment une autre facette intéressante de la carrière de Carême. C'est son dernier employeur. Il va y rester 3 ans, de 1826 à 1829. Et les Rothschild, quand ils arrivent à Paris, sont déjà très fortunés. Ils ont déjà fait fortune dans la banque. Mais il leur manque encore, pourrait-on dire, la reconnaissance du tout Paris, qui les considère un peu comme des parvenus juifs, allemands.
Car ils sont du nouveau monde et l'ancien monde les regarde avec circonspection, on peut comprendre.
Oui, circonspection, voire même un peu de mépris.
Oui.
Et James de Rothschild, lui-même, un peu de ce point de vue-là, très proche de Napoléon, ne s'intéresse pas particulièrement à la cuisine. Bon, il devait peut-être passer un peu plus que 12 minutes à table comme Napoléon.
Comme Napoléon.
Mais enfin, il était très austère de tempérament, s'intéressait essentiellement à la musique et aux œuvres de bienfaisance quand il ne travaillait pas à la banque. Mais ça n'était pas un gourmet. En revanche, lui aussi comprend très bien que pour s'imposer à Paris, eh bien, il lui faut un grand cuisinier. Et le marché sera conclu sur la base il faut faire de ma table la première d'Europe. Et c'est
d'Europe,
ça, d'Europe. Voilà.
Oui.
Et de fait, il va y parvenir.
C'est un défi merveilleux.
Et que Carême va relever. Et chacun, après, voudra être invité à la table des Rothschild, où vont se presser non pas seulement des sommités de la finance, selon l'expression de Carême, mais également beaucoup d'artistes, d'écrivains contemporains de l'époque, des musiciens, dont Rossini, qui finira très proche. C'est un ami proche de Carême. Mais c'est assez extraordinaire tout de même, cette proximité qui va s'installer entre Rossini et Carême. Et il y a un point sur lequel je voudrais insister qui me paraît intéressant. c'est que tant qu'il était chez Talleyrand, ou chez Murat, ou chez le prince régent, ou Alexandre Ier, même si ce dernier était particulièrement gentil et bienveillant avec son chef, bien sûr, Carême reste dans un rapport hiérarchique et inférieur.
Très clair.
Très clair. Même si on n'est pas dans la violence du discours de la bande-annonce du film Délicieux.
Nous sommes quand même après la Révolution.
Voilà, on n'est pas dans ce mode. On est dans un respect, mais quand même, évidemment, une marque de hiérarchie. Tandis que chez les Rothschild, Carême va devenir une sorte d'homme qu'on respecte, une sorte d'artiste. Et c'est d'ailleurs James de Rothschild qui va populariser le terme de chef en parlant de son cuisinier.
C'est de là que ça vient.
Oui, et dans les archives, il dit le chef, mon chef.
Oui.
Et qui le présente aussi comme un personnage public. C'est-à-dire qu'à la fin du dîner, Carême se présente aux invités et finalement leur demande leurs impressions sur le menu servi, comme aujourd'hui un chef fait le tour
des tables.
Et ça, c'est
nous demande parfois en nous agaçant. Ça s'est bien passé.
Voilà. Alors, je subodore que Carême ne devait peut-être pas s'exprimer en ces termes. Mais nonobstant, c'est quand même la même idée. C'est-à-dire qu'il vient et du coup, il devient un personnage public. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant parce qu'on est aujourd'hui dans cette continuité. Le chef est un personnage public qui ne reste pas dans sa cuisine, mais qui va bien à l'extérieur. Et non seulement qui communique avec ses client, mais qui aussi communique par ses livres, comme Carême le faisait déjà en 1833.
C'est ça, on voit que les grands chefs d'aujourd'hui qui sont devenus des auteurs, des marques en quelque sorte, que ce soit à la télévision, que ce soit dans l'édition, etc., suivent les traces d'Antonin Carême.
De ce point-là, oui.
Mais en même temps, Marie-Pierret, vous nous expliquez que au-delà de ces hautes sphères de la cuisine et de la diplomatie et de l'art culinaire poussé à son optimum, Antonin Carême prépare, écrivez-vous Marie-Pierret, la voie à l'embourgeoisement de l'art culinaire. Que voulez-vous dire exactement ?
Alors, il a, dans les préceptes qu'il a énoncés, il y en a un qui est très intéressant, qui est « il faut dépenser à la mesure de son budget ». C'est-à-dire que la cuisine doit être adaptée au budget de chacun. Et c'est la raison pour laquelle, dans plusieurs de ses livres, il propose des menus extrêmement coûteux et également des menus plus modestes. Et il insiste en particulier sur le fait que finalement, le savoir-faire sera le même, mais qu'au lieu de prendre du champagne, on peut prendre du vin blanc moins.
Oui, parce qu'il faisait la cuisine au champagne, il faut le rappeler.
Pour les Rothschild ou pour...
Oui, enfin, de façon assez courante, si je vous ai bien lu quand même, non ?
Alors, il est un des premiers cuisiniers à travailler le champagne en sauce et en réduction, en sauce, et non pas seulement comme boisson. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez novateur, mais tout en étant conscient qu'on peut très bien utiliser d'autres vins. Donc, c'est un premier trait de cette préparation à l'embourgeoisement. Également aussi, la réduction... du nombre de plats, et puis le passage du service dit à la française au service dit à la russe, c'est-à-dire un service à l'assiette où on découpe à l'office et qui est évidemment beaucoup plus approprié à une cuisine qu'on pourra qualifier de bourgeoise au fur et à mesure que le 19e siècle avance.
Et au fur et à mesure de l'invention de la salle à manger dans les appartements haussmanniens, par exemple. C'est ça.
Et puis autre point, c'est en ce sens aussi qu'il est un homme de transition, dans ces menus, on a beaucoup plus de plats sucrés que dans les menus de ses prédécesseurs, voire de certains de ses contemporains. Et là aussi, c'est une évolution vers notre repas, je dirais, bourgeois du 19e siècle, où le dessert en tant que tel arrive à toute fin du repas, après un ordre, entrée, poisson ou viande, fromage et dessert. Ce qui n'était pas le cas jusqu'au début du 19e siècle. On a très peu de plats sucrés. Et où les plats sucrés sont présentés finalement en même temps que les plats salés sur la table.
Donc c'est l'invention du dessert en quelque sorte.
C'est cela.
Avant le dessert, expliquez-nous, Marie-Pierret, faisait-on la cuisine au beurre ou à l'huile ?
Alors, tout dépend en fait des régions de France. Hein. Carême, lui, cuisine au beurre clarifié, pour qu'il soit plus pur et meilleur. Mais oui, au beurre, essentiellement.
C'est un Parisien. Oui. C'est pas un homme du Sud. Est-ce que vous, Marie-Pierret, parce que vous nous mettez quand même l'eau à la bouche, est-ce que vous avez essayé ces recettes que vous proposez ?
Alors, seulement, je vais être très honnête, peut-être les plus faciles qui sont essentiellement les desserts, hein. Mais pour les fêtes, je pense que voilà, tout ce qui est les recettes de poissons ne sont pas très difficiles à réaliser, mais elles requièrent un peu plus de temps que la cuisine dite ordinaire, donc je vais m'y plonger.
Il y a le rouget à la maître d'hôtel, le saumon à la Rothschild, le saumon à l'anglaise.
Un turbo au gratin.
Voilà, c'est vraiment fascinant de découvrir à travers cette cuisine, on découvre toute une époque, on découvre toute une organisation sociale et toute une diplomatie à l'œuvre. C'est ça que vous avez voulu ressusciter véritablement, Marie-Pierre Rey.
Bien sûr, Carême, c'est pour moi un outil, une façon un peu de faire entrer le lecteur dans ce premier tiers du 19e siècle, qui est absolument fascinant, tant il y a de mutations politiques, sociales, culturelles.
Par exemple.
Oh bien, le fait que ce type d'ascension sociale soit possible, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et puis la cohabitation des classes sociales, le rôle de Paris comme capitale déjà mondiale de la cuisine, de la gastronomie, et puis aussi l'intuition qu'a eu Carême, et ça c'est quelque chose aussi qui est fascinant quand on le lit et qui est très très moderne, l'intuition que la langue de la cuisine pouvait être un outil d'influence.
Et la langue de la cuisine, c'était le français.
Bien sûr. Et dès 1814...
À Saint-Pétersbourg, à Londres, à Vienne.
Voilà.
On parlait français. C'était la langue de la diplomatie.
Alors, on parle français parce que c'est la langue de la diplomatie. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les termes, quand les livres de Carême sont traduits, certains mots vont rester en français et vont passer tels quels dans la langue anglaise, russe, etc. Et ça, il en a très tôt la conviction que finalement, l'influence, elle passe aussi par des gestes ou des pratiques sociales comme la cuisine et aussi par la langue qui incarne ces pratiques culinaires. Et pour un homme qui, au départ, vient justement du ruisseau, comme on disait tout à l'heure, qui a appris à lire et à écrire tout seul, avoir eu cette intuition, je trouve ça absolument fascinant.
C'était en quelque sorte un artisan de ce qu'on appelle le soft power.
Oui,
c'est ça.
On peut le dire.
Oui. Et est-ce qu'il a été récompensé à sa juste valeur?
Oh, on peut dire que oui, puisqu'en fait, alors il meurt jeune, hein, c'est évidemment.
On imagine usé.
Usé, il meurt à 49 ans, mais il a été, parce qu'il est récompensé par ses livres qui se vendent extrêmement bien. Et puis pour le centième anniversaire de sa mort en 1933, il y aura 10 jours de célébration festive en France, et cela remontera jusqu'au président de la République. Alors après, il va être un peu oublié après la Deuxième Guerre mondiale, mais il pèse encore sur les cuisiniers, Escoffier, jusqu'à Bocuse et les disciples de Bocuse se sont retrouvés dans cette filiation. Et oui, je pense que de ce point de vue-là, il a été une grande source d'inspiration pour beaucoup et qu'il a compté. Même si, effectivement, il a été un petit peu oublié après, dans les années 60-70. Et c'est peut-être aussi pour ça que je voulais qu'on en reparle.
Une dernière précision, Marie-Pierre Rey, ce héros de la cuisine qui a vécu un destin exceptionnel, Antonin Carême, vous nous expliquez que c'est lui qui a inventé l'actuel uniforme que portent les chefs.
Alors il a inventé la toque.
La toque.
Pourquoi
la toque?
Alors parce qu'à l'époque on portait évidemment déjà un tablier blanc, qui d'ailleurs la couleur blanche qu'il définit comme le symbole de la propreté. Il insiste sur le fait que le cuisinier doit être impeccable, d'où la couleur blanche. Mais il trouvait que le couvre-chef que portaient les cuisiniers alors était, il disait, ça ressemblait à un bonnet de nuit.
Et c'était une simple calotte. Ça.
Oui, et ça n'était pas ni dynamique, ni source de fierté, et d'où cette invention de la toque. Et on rejoint, à travers ce symbole, son souci de promouvoir l'image du cuisinier, qui pour lui est avant tout un artiste.
Très bien. Un grand merci à vous, Marie-Pierre Rey, pour cette passionnante évocation de ce premier tiers du 19e siècle, dont nous vivons encore sur bon nombre de ses acquis, sur tous les plans. Et puis surtout, cette passionnante évocation de l'exceptionnel destin d'Antonin Carême. C'est le titre de votre livre, le premier des chefs, c'est publié chez Flammarion. Je rappelle également que vous êtes une grande spécialiste de la Russie, du monde slave, et donc je renvoie nos auditeurs qui sont aussi passionnés par ces aires culturelles, et Dieu sait si on en parle aujourd'hui, à l'ensemble de vos ouvrages sur la question. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Marie-Pierre Rey sur le site de RCF. Vous pouvez également nous écouter, nous réécouter en podcast, en balado-diffusion, quand vous voulez, où vous voulez. Et enfin, un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos. Merci à vous tous pour votre fidélité. Très bonne année à tous. À la semaine prochaine.